Bonjour à tous. On dit des lendemains qu'ils chantent ou qu'ils sont de fête. On dit aussi qu'ils peuvent être beaux ou incertains. C'est peut-être sûrement ce dernier adjectif, incertain, qui qualifie le mieux à ce jour les lendemains du voyage sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui. Car cette réflexion ouvre à dire vrai plus de questions que de réponses. En effet, comment allons-nous demain parcourir le monde, la curiosité en bandoulière? Comment allons-nous partir, le nez au vent, à la rencontre et au contact des autres? Comment vont se redéfinir les ailleurs, à l'heure où les frontières, elles, se redessinent pour mieux se fermer? Quel sens aussi donner à notre liberté de mouvement en ces temps de pandémie, de mobilité réduite et d'horizons lointains? Aéroport Roissy Charles de Gaulle, Milan Malpensa, Tembo Johannesburg, la plupart des avions sont bloqués sur les tarmacs, mais pas notre capacité à penser le lendemain qui déjà vient.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary.
Et pour penser ces lendemains du voyage, nous avons décidé de faire appel, au sens propre comme figuré, à deux écrivains voyageurs de renom, habitués à parcourir le monde, mais surtout à le regarder en face. Deux hommes, conteurs d'histoires, cherchant l'âme et l'esprit des lieux qu'on a déjà rencontrés lors de précédentes émissions et dont nous aimons la démarche sensible, la plume éclairée et les mots justes. Les mots, c'est ce dont nous avons besoin en de tels moments, a écrit dans son journal de confinement, paru dans le quotidien La Repubblica, l'écrivain voyageur italien Paolo Rumise, notre premier invité que j'ai joint par téléphone. C'est à Trieste qu'à 72 ans, il a vécu 2 mois de quarantena, comme on dit en italien pour signifier le confinement, et c'est depuis l'Italie qu'il nous livre aujourd'hui ses mots et ses impressions de lendemain.
L'impression d'une cage au folle. L'impression qu'on n'a pas exploité cette parenthèse magnifique pour réfléchir, pour penser un futur différent, dans une direction plus verte et plus, dans les signes d'une décroissance joyeuse. Voilà, l'impression qu'on nous a imposé une horrible mascarade, je ne sais pas le nom exact en français, mais quand on s'est mis une masque, et surtout ici à Venise, où je me trouve maintenant, cette impression dans les lieux du carnaval, cette impression du carnaval absurde qui continue, elle est très visible, très immédiatement concevable quand on sort pour regarder la vie qui recommence, la même vie qu'avant. Donc l'impression vraiment décevante que cette tragédie n'a servi à rien.
Alors, vous étiez à Trieste pendant le confinement, la quarantena, et donc vous, au lendemain du confinement strict en Italie, vous êtes parti de chez vous, Trieste, pour rejoindre un monastère. C'était en quelque sorte votre premier voyage après la quarantaine. Vous y êtes encore, là ?
Oui, je suis encore là. J'hésite à retourner chez moi. J'ai besoin de réfléchir encore. La réalité me dégoûte. Donc finalement, ici, il y a un bon équilibre entre la vie communautaire, la vie avec les autres moines, et l'isolement de ma petite chambre. Et ici, je suis dans un lieu privilégié parce que je vois de ma fenêtre, je pense qu'il y a le skyline la plus belle du monde, mais sans doute la plus photographée du monde, parce que je suis face à San Marco, d'un côté, la Salute, de l'autre, les grands canals au milieu. On voit tout, mais avec ces sentiments magnifiques d'isolement. On est loin, même si la distance est ridicule, parce qu'il y a 500 mètres pour San Marco et 30 mètres pour l'île qui est à côté.
Alors, sachant que cette démarche d'aller dans un monastère, elle fait sens aussi parce que vous avez écrit un livre qui n'est pas encore traduit en français, qui est paru en Italie en 2019, Il filo infinito, soit le fil infini, qui raconte votre tour d'Europe des monastères bénédictins. Ce voyage, c'était quoi exactement, Paolo Rumise ? C'était une façon d'interpeller l'Europe dans ses fondements ? pas que chrétien d'ailleurs, parce que la figure de Saint Benoît, le fondateur de cet ordre en 529, est consacrée saint patron de l'Europe. C'était le sens de ce voyage ?
Disons que ce voyage était la synthèse de beaucoup de pensées que j'avais dans mon cœur, qui attendaient de sortir. L'occasion m'a été donnée par un voyage à pied tout le long de la ligne de faille du tremblement de terre d'il y a 3 ans dans le cœur des Apennins. Et en descendant de la montagne, où j'avais vu en même temps la magnifique beauté de la nature, il y avait encore la neige, c'était avril, et en même temps, l'horreur de la destruction qui montrait d'une façon presque obscène l'intérieur des maisons avec toutes les choses restées là, comme si le temps avait arrêté depuis cet instant-là. Donc c'était la photographie de la mort qui coexistait avec la beauté des montagnes, la neige, des ruisseaux. Donc je descends de cette montagne et je me trouve à Nursia. Nursia, c'est le lieu où Benoît est né, mais j'y pensais pas. J'arrive, je trouve le mur du centre historique à moitié détruit, avec 2 églises complètement en ruine, et au milieu, c'était une soirée inoubliable, d'une beauté fantastique, rose, avec tous les arbres qui fleurissaient de cerises et de pêches. Et j'entre dans cette destruction, et au milieu de la destruction, il y a la statue de Benoît. Et ça m'oblige à réfléchir sur le lien qu'il y a entre le tremblement de terre et son rôle de patron d'Europe. Et la conclusion est sortie de moi d'une façon inattendue. Je me suis dit, mais où pouvait naître un homme qui avait trouvé en soi-même la force de reconstruire l'Europe dans un moment désespéré d'abandon total après la fin de l'Empire romain, sinon ici, dans un lieu de tremblement de terre où les gens étaient habitués depuis siècles millénaires à reconstruire leur maison. Et alors, tout était clair, et quand j'étais dans ces monastères pour raconter mon histoire, ma théorie sur le rapport entre le tremblement de terre et l'aventure des Benoît, j'ai ouvert la carte d'Europe, et tous les moines sont venus pour me dire « tu dois faire un voyage ». Et tu dois trouver ces monastères. Ils m'ont indiqué des monastères. Et ils m'ont préparé dans un instant l'itinéraire de mon voyage. Voilà, les choses sont nées comme ça.
23 aprile. Stamattina sono tornato sul tetto a guardare il mondo. Il sole sorgeva su un mare grigio-verde arato dal vento. Ce matin, je suis retournée sur le toit pour regarder le monde. Le soleil se levait sur une mer gris-vert labourée par le vent. Erano anni che non vivevo una simile bellezza. Cela faisait des années que je n'avais pas connu une telle beauté. La terra respirava, gioiva del giusto tempo sabbatico. La terra respirait, profitant d'un congé sabbatique mérité. E lì mi sono chiesto, saprò tornare alla normalità. Je me suis demandé, pourrais-je revenir à la normale? Ou est-ce la normalité qui est le problème? Et si tout revenait comme avant, ou pire, avec la liberté et la démocratie déjà mortes dans un coup d'état silencieux, dans l'indifférence d'un peuple reclus et sous anesthésie? Guardavo il primo sole planare sulla città. J'ai regardé les premiers rayons de soleil planer sur la ville et mon instinct a refusé de reléguer le printemps 2020 au mythe. Je comptais toujours avec obstination sur un nouveau départ. Mais l'ange noir me chuchotait déjà à l'oreille. « Réveille-toi, garçon. La récréation est finie. » Oltre i bollettini medici, oltre la protezione civile, le mascherine e i guanti, au-delà des bulletins médicaux, des services de premier secours, des masques et des gants, il n'y a que du vide. Aux commandes, il n'y a pas de pilote. Et bientôt, nous nous y habituerons tous. Au bruit, au gaz, à l'indifférence, à la bureaucratie suffocante, à la brutalité du pillage, à la consommation, aux patrouilles, à la suspicion et à l'état d'urgence permanent.
Paolo Rumi, ces mots du 23 avril ont été écrits quelques jours avant la fin du confinement strict en Italie. Dans votre journal de confinement, celui que vous avez écrit jour après jour pour le quotidien La Repubblica, là, on a choisi, c'est vrai, un extrait plutôt noir, plutôt inquiet, mais un peu plus loin dans ce même journal, vous exprimez aussi à quel point ce confinement a nourri vos pensées, pleines d'espoir et d'illusions, vous écrivez. Vous avez pu, pendant ce confinement, faire voyager votre esprit pendant ces 2 mois ?
Ben oui, disons que le confinement horizontal m'a obligé à chercher des voies de sortie verticales. Donc je suis plongé dans les abîmes de mon âme. Et en même temps, j'ai escaladé le toit de ma maison pour élargir mon point de vue, pour regarder loin, profitant aussi de la beauté de ce jour où l'air était plus nettoyé depuis que l'homme avait ralenti son développement meurtrier.
Et donc vous avez réussi à penser, même en étant sédentaire, parce que vous dites toujours qu'on pense avec ses pieds, qu'on pense en marchant.
Voilà, j'avais déjà vécu dans un phare, dans une île déserte de la Méditerranée, en découvrant qu'on fait des voyages magnifiques, même quand on est seul et immobile. Mais ici, cette fois, l'expérience a été encore plus extrême. Que je ne pouvais presque pas sortir de mon logis, de ma chambre. Et alors, j'étais obligé à élargir artificiellement la largeur de mon espace et découvrir qu'avec la fantaisie, avec l'imagination, on peut faire des voyages formidables. J'ai voyagé tout le monde en lisant mes vieux livres que j'avais laissés dormir dans ma bibliothèque. Je fais des voyages formidables dans le temps. Je pouvais imaginer le futur et en même temps, en écoutant les histoires de mes ancêtres, je pouvais remonter jusqu'au commencement de la civilisation. Par exemple, quand j'ai parlé avec le vieux écrivain slovène de Trieste, Boris Pahor, qui a 107 ans et qui se rappelle de la pandémie de l'Espagnole, l'histoire de l'Espagnole après la Première Guerre mondiale, il se rappelle tout. Alors, écoutez parler un homme comme ça de quelque chose qu'il a vécu, on dit vraiment, on savait déjà tout. Et notre problème n'est pas un problème technique, n'est pas un problème qu'on peut résoudre avec un vaccin, mais c'est un problème de manque de mémoire. Parce que la connaissance des pandémies est vieille comme l'homme. Mais maintenant, on se croit immortel. Et ce n'est pas possible de fermer la vie d'une nation par peur de la mort. C'est la première fois que ça arrive. Je trouve tout ça obscène.
Et alors, vous parliez de Boris Pahor. En fait, effectivement, lui a connu la grippe espagnole. C'est ça dont vous parliez. Et pour revenir à ce que vous disiez aussi, vous avez parlé de penser l'avenir. Justement, ensemble, on essaye d'imaginer les lendemains, l'avenir aussi du voyage en tant que mise à disponibilité ou disponibilité au monde et aux autres. Même encore aujourd'hui, après le confinement, notre liberté de mouvement est entravée. Le rapport aussi à l'autre, à l'inconnu et à la mort, vous l'avez dit, est profondément modifié aussi par la peur. On doit garder nos distances. Comment vous envisagez justement ces lendemains du voyage ?
Alors, je vois le grand monument de Rome vide. Je vois les grands bateaux pour 5000 passagers qui sont arrêtés. Je vois que le gigantisme est mort. Et maintenant, la seule possibilité de futur pour des voyageurs, c'est de renoncer à être touriste et retrouver le territoire à partir de la porte de chez soi. Partir à pied et reconquérir le territoire en les voyageant à pied, en vélo, d'une façon verte, d'une façon légère et douce. C'est ça le futur. Les dégâts du tourisme de masse ont été presque supérieurs aux dégâts de la guerre. Je vois Dubrovnik, par exemple, sur la côte de la Dalmatie. Il sortait d'une guerre, mais maintenant, quand il voit arriver les grands bateaux de touristes qui envahissent la vieille ville historique, ils se disent « c'est pire que la guerre ». Voilà. Et moi, j'ai la même impression qu'il faut arrêter de se vendre avec une identité qui est une carte postale de soi-même, de devenir une caricature de l'identité. Il faut retrouver le territoire, il faut le marcher. Et moi, j'ai envie de faire ça. Sentier après sentier, reconstruire la carte topographique de mes environs. Ça ne me suffirait pas pour une vie, mais pour 10 vies.
Et puis aussi, vous l'avez dit, Paolo Rumis, pour voyager, il y a aussi les livres. Alors, je ne sais pas si vous l'avez relu, mais normalement, il est censé, vous le dites en tout cas souvent, être souvent à votre chevet. Ce livre, c'est « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, un écrivain où, dans ses pages, la poésie est partout. On va écouter l'auteur lire lui-même son poème « Ulysse ».
Au sud du Bastingage, il n'y a plus rien jusqu'à la terre antarctique. Léviathan et sirène labourent ses prés marins, se portulant gaufrés de vagues où d'immenses pans de ciel s'abattent en averses fourbues sans que Dieu lui-même en soit informé. Chaque soir, tu regardes la timbale du soleil plongée en hurlant dans la mer pommelée. Clin d'œil des forts matous lovés dans les cordages, les espadons bleus filent devant l'étrave, bande de bijoutiers en fuite. Voilà des mois que tu n'as pas reçu de lettre. Tu es le dernier des parias à bord de ce navire, le cœur rendu, un torchon d'étoupe à la main, tout noir de souvenirs déjà. Tu t'abolis dans le tremblement des hélices, tu écoutes le chant ancien du sang dans tes oreilles. Caillot ensoleillé de la mémoire et dénombrement des merveilles, quand tu savais vivre de peu, ta vie t'accompagnait comme un essaim d'abeilles et tu payais sans marchander le prix exorbitant de la beauté. Sumatra, Bradford, 1978.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, nous dit le poète du Bellay, pas si sûr. Le voyage, l'odyssée d'Ulysse jusqu'à son royaume d'Ithaque était semé d'embûches, mais le récit qu'en fera Homère posera en tout cas les bases d'un genre littéraire fameux en Occident, le récit de voyage. Et vous, Paolo Rumis, vous êtes l'auteur, on l'a dit, de plusieurs dizaines de récits de voyage, que ce soit sur les traces d'Hannibal, le général carthaginois, à vélo jusqu'à Istanbul, en bus, en train ou en autostop, le long aussi de la frontière orientale de l'Europe. Vous l'avez dit, vous êtes aussi allé vous percher sur un phare en Méditerranée, et encore plus récemment, vous êtes parti sur la Via Appia, première route antique de Rome à la Méditerranée. Je me demandais, après ce séjour dans ce monastère, ce voyage plus immobile, quel sera votre prochain voyage et votre prochain récit ?
Oh, très facile. J'ai deux petits-fils qui habitent très loin de moi, donc j'ai envie de les revoir après cet moment d'immobilité. Et la chose que je désire maintenant, c'est de les porter quelque part sur un fleuve pour pêcher. Et les soirs, organiser le bivouac, leur raconter des histoires, cuisiner des truites, les nettoyer, les enseigner comment s'organiser dans une vie à la belle étoile. Et je sais que ça sera peut-être le plus beau de ces voyages, parce qu'on a trop ignoré les jeunes générations. Et je sens que je dois laisser un signe, pas seulement pour ce qu'ils se rappellent de moi, mais pour leur dire, voilà, il faut que vous écoutiez les voix du bois, de la forêt dans la nuit, et les frissons d'une belle histoire racontée par la voix d'un vieux. Parce que le vieux, il n'y a que la voix qui reste. Elle devient très belle, je dis. Oui.
Paolo Rumiz, merci. Je vous souhaite donc un bon voyage avec vos deux petits-fils. Et je vous laisse en vous souhaitant donc de beaux lendemains au son, pourquoi pas de la cora de l'abbaye bénédictine du Sénégal Cœur Moussa. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un petit clin d'œil à votre dernier voyage. Une musique qui va nous emmener aussi vers le continent africain cher à notre deuxième invité, Jean-Yves Loud. Merci Paolo Rumiz. Pour la suite de ces lendemains du voyage, on va désormais tourner le dos à l'Europe et prendre la direction cette fois du continent africain. En compagnie donc de Jean-Yves Loud, écrivain voyageur français, ethnologue touche-à-tout, arpenteur des mondes lusophones et enquêteur des mémoires assassinées ou occultées des Afriques. Jean-Yves est un habitué de nos micros. Il nous a déjà emmenés en Haïti, puis sur l'archipel portugais et ultra-périphérique des Açores qu'il avait alors rejoint en cargo. Et la dernière fois, on l'avait quitté parmi les Kalash, un peuple polythéiste de l'Himalaya, à l'occasion d'une grande exposition du Musée des Confluences à Lyon, en France, qu'il avait alors imaginée avec sa compagne de vie et de voyage, Viviane Lièvre, et un troisième acolyte photographe qui a documenté leur vie passée dès 1976 dans les replis de l'Hindou Kush, au plus près des croyances et des rites Kalash. Il faut donc arriver à suivre Jean-Yves Loud. Pendant le confinement, bien sûr, il a posé ses valises, mais vous imaginez bien qu'il a déjà 1000 projets de voyage et de récits sur le feu et sous la plume. Il va nous en parler, car avec lui, croyez-moi, demain, ce n'est jamais très loin. Bonjour Jean-Yves.
Oui, bonjour Céline.
Alors je vous l'ai dit en préparant cette entrevue par téléphone, j'ai beaucoup pensé à vous en ces temps de virus planétaire et de confinement, parce qu'il y a quelques années déjà, en 2018 exactement, on avait échangé en studio cette fois autour de votre livre « Un cargo pour les Açores » paru aux éditions Actes Sud. Et à l'époque, vous étiez parti donc en cargo dans ce chapelet d'îles portugaises sauvages, battues par les vents, situé au beau milieu de l'océan Atlantique. Et vous étiez en quête de sublime, une notion esthétique, philosophique, qui, je trouve, résonne beaucoup de nos jours dans le désordre actuel. On va écouter un extrait de votre livre, « Un cargo pour les Açores », et on en parle juste après.
C'était un mois de mars à Lisbonne. Cette ville le captivait. Lyon s'y réfugiait chaque fois que le monde l'exaspérait. Il s'y rendait donc souvent, Lisbonne le rassurait, le ravissait, nourrissait son optimisme. La capitale portugaise avait subi un tremblement de terre d'une rare violence le 1er novembre 1755. Mais elle s'était reconstruite plus belle et plus forte qu'avant. La nature l'avait abattue, mais elle avait surmonté la catastrophe. Ce séisme, très médiatisé, bouleversa l'Europe du XVIIIe siècle. Et ce fut au lendemain du drame qu'apparurent les premières réflexions sur la notion troublante de sublime, comme née de l'effroi. Le sublime, ou la double face de la beauté, définissait une exaltation devant le spectacle de la nature déréglée. Il traduisait des sentiments ambigus, composés de fascination et de terreur à la fois. « Personne ne souhaiterait la destruction de Londres », écrivait Burke, mais si ce funeste événement se produisait, une foule de curieux accourait. La vision de Lisbonne en cendres avait ainsi déclenché une forte émotion esthétique, tempérée par un soupçon de culpabilité. Cette notion de frisson double et trouble finit par alimenter dans les sociétés occidentales un imaginaire de l'effondrement.
Jean-Yves Loud, les déchaînements de la nature et la sidération aussi, mêlés à cette attirance curieuse, double devant la catastrophe, c'est un peu, moi c'est ce que je me suis dit, ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un peu difficile à dire, mais l'époque qu'on vit est sublime en quelque sorte, si on suit en tout cas le sens originel.
C'est exactement ce que j'ai pensé en approchant ce monde apocalyptique. À la fois, j'étais partagé par l'idée d'une sorte de bonheur de sentir une nature complètement apaisée, silencieuse, rendue aux oiseaux, rendue aux fleurs, rendue à un air pur, et avec sur nos épaules l'inquiétude d'un monde qui avait failli. Alors, c'est vrai que... Fort de cette idée du sublime, durant le confinement, moi j'ai vécu, alors sans culpabilité, une période de rêve, une période monacale, une période où je disposais de tout mon temps, mais que je voulais utiliser pour réfléchir à ce qui nous arrivait, à cet orgueil de l'homme démesuré qui en était, qui nous avait mené jusque-là. Alors, j'avoue que j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, pendant ces temps de confinement, je vais essayer de remonter à la raison de cet orgueil, de ce souci d'expansion, de destruction et d'exclusion qui doit quand même venir de quelque part, qui vient quand même des sources de notre civilisation, de notre pensée judéo-chrétienne. Et donc j'avoue, toujours dans ma préoccupation du sublime, donc d'avoir lu, en lectio divina, c'est-à-dire comme les moines, en essayant de ne pas tourner la page tant que je n'ai pas compris le sens de ce que je lis, j'ai essayé de remonter aux sources, aux lectures, avec un terme précis. Je me suis posé la question de savoir si toute la catastrophe que nous vivions, tout ce déséquilibre que nous vivions, ne venait pas d'un malentendu, d'un divorce terrible, tragique entre l'homme et la femme. Et donc j'ai dépensé ces 2 mois et demi et encore à savoir ce que l'homme, qui a pris tous les pouvoirs politiques et économiques, disait de la femme dans les textes sacrés du monothéisme. Cette crise nous emmène quand même, j'espère, à l'optimisme. De l'optimisme, c'est-à-dire construire un monde d'après qui soit plus serein et qui soit basé sur un équilibre. Et cette guerre qui dure depuis des millénaires entre hommes et femmes, il faut en terminer. Il faut une armistice, il faut une organisation pour que la nature dans laquelle nous ne sommes que une partie de cette nature, puisse reprendre ses droits.
Et alors en parlant d'optimisme, Jean-Yves Loud, il faut rappeler aussi qu'à l'époque du cargo pour les Açores, tout le propos de votre livre et de votre voyage, ce n'était pas seulement de vous confronter à cette nature puissante, supérieure, mais surtout de comprendre et de témoigner de comment les hommes, certes vulnérables, mais avaient en tout cas là-bas, dans ces petites îles, élaboré des stratégies de résistance. Pas contre la nature, mais avec. Donc elle est possible aussi, cette résistance de nos jours.
Oui, mais bon, aux Açores, les humains sont encore humbles, parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais le pouvoir sur les vents, sur les volcans, sur les tremblements de terre. Jamais, jamais. Et ils ne le pourront pas. Donc c'est très intéressant comme laboratoire pour mesurer que, à quel point l'homme n'a pas encore tout gâché et combien il a besoin de concilier la nature. Quand, avec ma compagne Viviane Lièvre, nous avons vécu pendant 15 ans chez les Kalash, dans l'Himalaya, ce petit peuple nous a montré à quel point il devait vivre avec une nature qu'il peuplait de fées, de dieux gentils, bienveillants, pour que cette société en danger permanent puisse continuer à exister. Quand nous sommes allés au Cap-Vert et qu'on a vu l'épreuve que les humains expansionnistes avaient fait peser sur une société d'esclaves, on a vu quelles étaient les stratégies de résistance de l'humain. Alors oui, j'ai confiance dans l'humain. Et quand il redescend de son piédestal, quand il se laisse aller à la joie de vivre dans une nature qui lui fournit son existence, là, il y a de l'espoir. Je voudrais qu'on ne gâche pas cette chance inouïe que l'on a. On parle en ce moment de croissance, repartir, consommer. Mais consommer quoi ? Une croissance qui soit définie par quelle production. Je crois qu'il faut en finir avec la frivolité, la futilité, avec le gaspillage de la distraction, c'est-à-dire se détourner de l'essentiel. Donc, je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais on n'aura pas deux fois une chance de réflexion. Il faut que les hommes politiques passent des servants de l'économie à des penseurs. Moi, j'ai besoin d'un président qui soit un penseur. Je veux que les hommes politiques deviennent des penseurs qui montrent le chemin, quand ils ne soient pas des premiers de cordée supérieurs, mais des guides, et qu'ils donnent à une réflexion et que l'on ait tous là le moyen de dialoguer et d'apporter sa pierre. Il ne faut pas rater cette chance.
Alors vous avez dit « j'ai confiance en l'homme », vous avez d'autant plus confiance en l'autre que vous le cherchez en fait depuis 40 ans, parce que tous vos voyages se font d'histoire en rencontre. Souvent, on vous suit rencontrant une personne qui vous amène à une autre, qui vous entraîne sur un chemin insoupçonné, ce qui à chaque fois vous ravit. On retrouve dans les pages de tous vos livres cette jubilation de la rencontre. Et moi, je me suis demandé... comment est-ce que vous envisagez ces lendemains du voyage autour justement de cette notion d'altérité, quand en fait, aujourd'hui, l'autre peut être perçu comme un danger potentiel, une source aussi de crainte insondable, souvent irrationnelle avec ce virus?
Oui, mais ça ne m'empêchera pas de marcher vers l'autre. La définition du voyage, c'est de marcher vers l'humain. Il n'y en a pas d'autre. Donc, même si je devais aller poser des questions masquées, les yeux peuvent rire hein, quand même. Ce que je suis atterré en ce moment, c'est qu'effectivement, on s'évite tous. L'autre, c'est le danger potentiel, ça devient l'ennemi. Mais quand on est dans les centres-villes en ce moment, il n'y a personne qui rit même par les yeux ou qui a une gentillesse par le regard. C'est un peu terrifiant, je trouve ça. Mais pour revenir au voyage, oui, j'attends juste une petite libération de l'espace pour repartir sur le thème que j'ai défini, parce que les deux mois et demi passés sur le discours des hommes sur les femmes, l'interdiction qu'elles aient de participer à tout rituel, à tout sacré, c'est quelque chose qui ne peut plus durer. Donc, Viviane et moi, nous allons profiter de cette interrogation pour retourner sur le terrain et aller à partir d'images interdites de la femme dans la religion catholique. Nous allons enquêter de nouveau pour essayer de savoir, de faire craquer les blocages de cette civilisation qui nous empêche d'être heureux, en fait. Voilà, tant que l'homme et la femme ne seront pas dans un équilibre harmonieux, dans un véritable amour partagé, je crois qu'on ne pourra pas construire de civilisation. On a parlé beaucoup de féminisme en ce moment, et le féminisme a gagné beaucoup de combats dans le domaine économique, politique, un peu culturel, beaucoup, mais le combat qui reste à gagner aux féministes, hommes et femmes, hein, c'est de s'attaquer aux nœuds et au blocage du religieux. Il faut que hommes et femmes partagent ce qui permet la communion avec l'explication du monde. Et là, il n'y aura pas, et ce n'est pas une phrase de moi, c'est une des phrases de la première imam femme de Berlin, de la mosquée libérale de Berlin, qui le dit et demande instamment à ce que les femmes s'attaquent aux religieux. Et là, on ira peut-être vers un apaisement. Quand les hommes perdront l'arrogance du pouvoir, quand on arrêtera de penser à un dieu patriarcal et uniquement mâle, alors qu'on a des textes dans l'Ancien Testament qui dit « Je ne suis ni homme ni femme, c'est Dieu qui le dit ».
Tout de suite, on va écouter aussi une grande dame brésilienne, Virginia Rodriguez, sur RFI.
Os movimentos do mundo, cada um tem seu momento. Todos têm um pensamento de vencer a solidão. E quem pensa tiver sentimento, estenderá sua mão. Nos movimentos do mundo, requerer perdas e danos é abrigar desenganos sem amor e sem perdão. Nos horizontes do mundo não haverá movimento se o botão do sentimento não abrir no coração.
Alors Jean-Yves Loud, on continue avec vous d'interroger les lendemains du voyage. Et le vôtre de lendemain, c'est d'abord la sortie prochaine en poche chez Babel Actes Sud d'un livre, Le roi d'Afrique et la reine mère. Un livre donc qui retrace un voyage que vous aviez entrepris avec Viviane, votre compagne, et un comparse sénégalais aussi, en Afrique de l'Ouest, à travers, si je ne me trompe pas, le Sénégal, la Gambie, le Mali et la Guinée. Alors, ce n'est pas un voyage récent, puisqu'il a eu lieu dans les années 90, mais on peut dire que c'est un voyage important, fondateur, puisqu'il a fait, en quelque sorte, de vous l'écrivain que vous êtes, mais aussi, surtout, un lion. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, c'est pas les lendemains, mais c'est les hier. Le livre sort en poche, donc il devient un classique, mais c'est ce voyage en Afrique, dans la savane des contes et du savoir des griots, qui nous a permis de formuler ce mode d'enquête littéraire. Quand nous sommes partis sur les traces de cet empereur malien du 14e siècle, disparu en mer avec 2000 pirogues pour savoir si il y avait un au-delà à l'horizon sur la mer des ténèbres, s'il y avait une terre ou s'il y avait une cascade, nous sommes partis de Dakar jusqu'à Conakry pour enquêter au pays des griots, demander au papa, aux vieux, aux intellectuels, aux directeurs de musées si cette histoire était une légende africaine ou si elle était une réalité. Les savants occidentaux l'ont toujours balayé de revers de la main, c'est l'oralité africaine. Ça voulait dire dans leurs propos que ça ne valait rien. Donc c'est ce jour-là que nous avons décidé de devenir inspecteurs de police sur les mémoires assassinées de l'Afrique. Et ça ne nous a pas quittés pendant 25 ans. Alors pourquoi je m'appelle Lion dans ces enquêtes ? C'est parce que dans Le roi d'Afrique et la reine mère, on a été accueillis un jour au fin fond de la Guinée, dans un village perdu où il n'y avait bien sûr pas d'endroit pour se loger. Nous avons frappé à la case du vieux Camara, un forgeron, patriarche du village, qui nous a dit « Mais bien sûr, mais restez chez moi autant que vous voudrez ». Et c'est au lendemain de cet accueil qu'il m'a dit « Mais à propos, tu viens d'où toi ?» Et moi je lui ai dit « Je viens de Lyon ».« Ah bon, tu viens de Lyon ?»« Oui, de Lyon. »« Ah, tes ancêtres ont choisi un nom très courageux, Lyon. » Bon, à partir de maintenant, je t'appellerai Monsieur Lion. Et c'est comme ça que, dans le Roi d'Afrique, je suis devenu Monsieur Lion. Et ce surnom m'est resté tout le temps. Et Viviane s'appelle Lièvre. Et on sait qu'en Afrique de l'Ouest, le lièvre, c'est l'animal rusé, c'est le renard. Et il s'appelle l'œuf. Toutes nos aventures pendant 25 ans, les 6 livres chez Actes Sud, c'est les aventures de Monsieur Lion et de l'œuf Viviane.
Et alors, vous l'avez dit, vous avez mené une enquête, vous avez interrogé cette tradition orale, et en chemin, vous avez aussi croisé le chemin de Paté Diagne, un linguiste universitaire sénégalais qui s'est longuement penché sur la figure de cet empereur solitaire du XIVe siècle, possible précurseur, dit-on, de Christophe Colomb, Abou Bakari II. On va écouter une archive INA d'une émission que vous aviez réalisée, Jean-Yves, en 93 pour la radio française France Culture.
J'avoue que j'avais lu la relation de Al-Omari sur Bakari II dans les années 1960. Et je me suis rendu compte que Bakari II, navigateur, Mansa du Mali, faisant une traversée de l'Atlantique, pour comprendre pourquoi il fallait l'installer dans l'histoire. Il faut d'abord savoir qu'à l'époque, le Mali est le pays de l'or. Même l'or qu'on utilise dans les cours royales et aussi pour battre monnaie dans les différentes nations européennes venait essentiellement du Mali. Le Mali était le producteur d'or du monde. Et Bakari II était l'empereur de ce pays qui jouait à l'époque un rôle prépondérant dans ce que j'appellerais une géopolitique islamique qui couvrait aussi bien l'Espagne que la Méditerranée du Sud, une bonne partie de l'Afrique et de l'Asie, et à l'intérieur de laquelle vous aviez des intellectuels, certes arabes, mais des intellectuels surtout arabophones, qui étaient souvent d'ailleurs non seulement des persans, mais pouvaient être des juifs, des chrétiens, des Africains de l'Ouest. Alors, je pense que toute cette atmosphère intellectuelle a amené Bakari II à entreprendre la traversée de l'Atlantique. Et c'était peut-être pas simplement un défi, c'est qu'il y avait une tradition qui était installée avant lui. Les empereurs du Mali, je crois, Sankoura en particulier, va entreprendre au XIIIe siècle de conquérir l'Ouest Atlantique. Alors, quand il aura conquis l'Ouest Atlantique, il aura conquis pratiquement ce que le Ghana avait couvert comme espace dans l'Ouest Atlantique, etc. Donc, il représentait la grande puissance. Et je crois qu'il ne lui suffisait plus simplement de ses conquêtes. Et c'est peut-être là le roman de Bakari II. Il s'est dit, j'ai conquis toutes les terres, il me faut aller au-delà.
Jean-Yves Loude, vous l'avez dit, vous êtes parti en quête de vérité peut-être, mais pas seulement. On a surtout l'impression, en partant comme vous l'aviez fait sur les traces de Bakari II, que vous étiez finalement en quête... comment dire, d'un génie africain, en quelque sorte. On le perçoit d'ailleurs quand on entend cette archive, on découvre aussi, alors peut-être certains la connaissent, mais je pense que la plupart des gens ne perçoivent pas la grandeur de ces civilisations africaines. Et donc on perçoit aussi que ce génie est tombé dans le silence, voire aussi a été victime de mépris.
Mais c'est-à-dire que à partir de Christophe Colomb, de l'expansion portugaise, des grandes découvertes, l'histoire médiévale du Mali n'existe plus. L'Afrique n'a rien d'intéressant parce que l'Europe conquiert le monde et écrit l'histoire à sens unique. Donc on ne considère plus l'Afrique. Et puis comment considérer l'Afrique d'avant si on rend les hommes d'Afrique des esclaves? Donc ça ne marche pas. L'histoire d'Abou Bakari II ne marche pas avec notre construction de l'histoire. C'est pour ça qu'elle a été effacée. C'est pour ça qu'en Occident, on refuse de croire à la grandeur de cette tentative aventureuse de traverser de l'Atlantique. En revanche, en Afrique, c'est le contraire. On voudrait trop y croire. Et entre les deux, il y a les griots qui, eux, ont décidé de se taire parce que Abou Bakari II est parti, ça on le sait, mais il n'est pas revenu. Donc ne pas revenir, c'est pire que de perdre une bataille. Donc les griots qui sont là pour louanger les grands hommes d'Afrique, les grands monarques du mandat médiéval, vont se taire parce qu'on ne peut pas parler d'un perdant. Voilà pourquoi cette enquête était si compliquée, si aventureuse, si périlleuse, comme on dit, entre les coupes-coupes des vérités et mensonges de l'histoire écrite et de l'histoire orale qui, jusqu'à présent, ne font pas bon ménage.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on vous entend, on sent un désir de, presque, j'ai envie de dire, de réconciliation. Vous parliez des hommes et des femmes et de ce divorce largement consommé, en tout cas dans les religions. Vous parliez de l'Occident et de l'Afrique par rapport à cette, sans être une bataille mémorielle, mais en tout cas à ces enjeux de l'histoire. On sent qu'il y a finalement dans tous vos voyages et tous vos récits, inconsciemment peut-être, je ne sais pas, mais un désir de réconcilier.
Mais oui, parce que j'ai l'impression que l'homme a passé ses siècles à gâcher sa vie et son histoire. Et c'est, moi, en tant qu'homme du 21e siècle, je regarde ça, je regarde ce qu'ont fait mes aînés, mes anciens, et je ne me sens pas satisfait de ce résultat-là, justement, ces divorces successifs. Pourquoi, l'Europe est partie parce qu'il y avait trop de monde en Europe, parce que cette richesse, on est allé les prendre chez les autres en inventant des tas de dialectiques pour expliquer pourquoi on s'implantait sur les autres, on vendait les hommes, on les tuait, on les persécutait. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et pourquoi on fait tout pour oublier que ces hommes que l'on va persécuter ont fait de grandes choses? C'est ce qui a débouché sur le racisme qui nous accompagne aujourd'hui dans notre quotidien. Donc, nous, on n'est pas responsables vraiment des œuvres et des actions de nos ancêtres, mais on nous reprochera toujours de n'avoir rien fait à notre temps. Et oui, c'est vrai que vous avez raison. Moi, je réparer, c'est un bien grand mot, c'est du don quichotisme. Mais à ma mesure, je veux montrer à quel point ce qui a été tenu pour méprisable est grand. Combien les hommes qui ont été esclaves ont construit des cultures qui leur ont permis de survivre malgré les épreuves et la douleur. Et combien ces résultats sont importants à connaître pour l'humanité, pour, j'espère, écrire une histoire qui soit plus édifiante. Oui.
Jean-Yves Loude, merci.
Merci Céline.
Alors je vous souhaite à vous et à Viviane des lendemains qui chantent. Et pourquoi pas, tiens, tout de suite, des lendemains qui chantent avec ces 36 histoires pour amuser les enfants d'un artiste, de Francisco de la Cerda. Alors c'est un compositeur des Açores, ami de Debussy et Satie en son temps, mais très vite oublié. Et vous, Jean-Yves, vous avez contribué à le faire mieux connaître et entendre aussi à nouveau à travers un livre CD illustré paru chez Fabula Urbis. Vous en écrivez le texte, Pierre Pratt fait les dessins et c'est la concertiste Elisabeth von Straten qui l'interprète au piano. Et avant de vous saluer, chers auditeurs, nous adressons nos remerciements à la Sonothèque de RFI pour leurs archives, à Viola Berlanda pour sa voix italo-française, à Sylvie Mazurel pour ses ressources italiennes et bien sûr à Jean-Yves Loude et Paolo Rumis pour leur aimable participation. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages radiophoniques. Bonne semaine à l'écoute de RFI.